Vous écoutez, on lit pour vous.
Des applis en santé mentale validées par Québec. Un texte de Catherine Crépeau, paru le 27 juin 2025 dans Protégez-vous. Québec vient de lancer un site Internet gratuit regroupant une vingtaine d'applications mobiles en santé mentale et en bien-être validées par des experts pour aider la population et les professionnels de la santé à s'y retrouver parmi les nombreux outils numériques existants. Il existe plus de 350 000 applications en santé mentale et bien-être, dont seulement 2 % présentent des preuves scientifiques et 9 % assurent une sécurité adéquate des données, indique le cabinet du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Elles sont pourtant utilisées par 4 personnes sur 10, selon une récente enquête menée par le Centre d'expertise en technologie de l'information en santé mentale, dépendance et itinérance, CETI-SDMI. Le site appsantémentale.ca vise donc à offrir un répertoire de ressources crédibles et sécuritaires dans le domaine de la santé mentale et du bien-être à la population et aux professionnels de la santé. Les applications présentées sur le site gouvernemental ont été sélectionnées en collaboration avec des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins de famille, des chercheurs, des représentants d'organismes communautaires, des experts en innovation numérique, ainsi que des proches aidants et des patients partenaires. Les experts ont évalué la validité clinique des applications, la cybersécurité et la confidentialité des données, en plus de faire des tests d'utilisation avec des usagers. S'y retrouver sur le site. Les applications sont offertes en français et en anglais et réparties en 6 thématiques. Stress et anxiété, émotions et humeur, sommeil, exercice et nutrition, confiance et relations, consommation. Chaque application est ensuite présentée sous forme de fiche, ce qui permet de voir rapidement en quoi elle consiste, ainsi que son évaluation par les experts. Dans chaque thématique, il y a au moins une application gratuite ou avec un abonnement limité gratuit. Une application n'est pas une consultation. Le site précise bien qu'une application ne remplace pas un suivi professionnel. Elle peut toutefois offrir un soutien simple, accessible, immédiat et confidentiel. Elle peut aussi aider à faire face à des situations quotidiennes, comme comprendre ses émotions avec des parcours guidés, suivre son humeur et ses activités chaque jour, ou noter ce qui déclenche l'anxiété. Une approche globale. Le site a été développé dans le cadre du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. Il s'inscrit également dans l'approche des soins par étapes du Programme québécois pour les troubles mentaux. C'était des applis en santé mentale validées par Québec. Un texte de Catherine Crépeau, paru le 27 juin 2025 dans Protégez-vous.
Du Canada à Gaza, des médecins dénoncent la violence coloniale. Un texte d'Inès Lombard, paru le 24 juin 2025 dans le Nunavoie. Le 28 mai, Yi Pengji était sur la colline avec d'autres médecins pour témoigner des vies qu'ils ont tenté de sauver à Gaza. Selon eux, l'horreur qui s'y déroule en direct ne peut se comprendre que par le prisme du colonialisme. Un état d'esprit que le Canada soutient encore, affirme-t-il. On voit tant d'enfants dans les cliniques, déshydratés, mal nourris. C'est une politique coloniale pour éliminer une population entière. Et cette politique cible les enfants, les bébés, affirme avec colère Yi Pengji, médecin à Ottawa, parti à Gaza en février 2024. L'une de ses collègues a interrogé les journalistes présents sur la colline. « Savez-vous comment on reconnaît un enfant affamé? Il ne peut pas pleurer, et son cœur ralentit pour s'arrêter. » Ces témoignages ne sont pas rares depuis 2023 sur la colline. Ils s'intensifient dans l'espoir d'être entendus par le premier ministre Mark Carney. La faim comme une arme, parallèle entre le Canada et Israël. La docteure Suzanne Schuch de la Première Nation Stadtlimtsch est responsable du Bureau de santé autochtone du département de médecine familiale et communautaire de la Faculté de médecine de l'Université de Toronto. Elle a exercé la médecine auprès de familles marginalisées et mal desservies par la santé publique canadienne, dont plusieurs peuples autochtones. Cette expérience la pousse à dessiner ce parallèle très fort et enraciné dans le colonialisme entre le Canada et Israël. Dans un article récent, elle aussi confie rester hantée par le souvenir d'avoir tenu dans ses bras un enfant affamé, un événement survenu cette année dans le nord de l'Ontario. Ce souvenir, qui remonte à quelques mois, est plus viscéral qu'intellectuel. La sensation tactile de sa peau desséchée sur le bout de mes doigts avait la texture d'un papyrus ancien, trop délicat pour être touché sans se désintégrer dans mes mains. Son corps, totalement dépourvu de graisse sous-cutanée, est resté immobile, émacié et mou, tandis que je l'examinais, un profond sentiment d'effroi montant dans ma poitrine. Elle cite l'exemple de la communauté d'Attawapiskat en Ontario, qui a fait l'objet en 2012 du documentaire « Le peuple de la rivière Katawapiskak ». Réalisé par Alanis Obomsawin, ce dernier met en lumière les conditions de vie d'extrême pauvreté et d'accès aux premiers besoins de cette Première Nation du fait du gouvernement canadien. Comme bien d'autres communautés, ils ont été volontairement privés de nutriments, de soins médicaux et dentaires. L'effet de la famine était étudié sur les nourrissons, les enfants, les jeunes enfants et les personnes âgées. L'utilisation de la famine comme arme de nettoyage ethnique est redoutable, dit-elle. Israël bombarde de la bande de Gaza depuis octobre 2023, après une attaque du Hamas sur des civils israéliens. L'Organisation des Nations Unies indique qu'une grande partie de la zone est devenue inhabitable. Empêcher que l'histoire ne se répète. Notre gouvernement manque à son obligation d'empêcher que l'histoire ne se répète en Palestine, affirme la médecin dans ce même article. Le prisme colonialiste du Canada et d'Israël expliquerait, selon Suzanne Schuch et Yi Pengji, que le Canada est complice du génocide à Gaza, malgré une promesse d'aider la population affamée en mai dernier. Pendant une semaine passée à soigner des familles à Gaza, le médecin Yi Pengji confie à Franco-Presse n'avoir jamais vu autant d'enfants à l'état de peau et d'eau. Pour lui, la stratégie d'Israël de ne pas laisser passer l'aide humanitaire, d'affamer la population palestinienne, affecte disproportionnellement les bébés, les enfants et les personnes avec des maladies chroniques. Le médecin a déjà vu les effets du colonialisme grâce à des étudiants et professeurs autochtones rencontrés au début de son parcours d'étudiant qui lui ont fait prendre conscience du parallèle entre les deux États. Yi Pengji en a également été témoin lors d'une mission au Nunavut. Récemment, un débat d'urgence demandé par la députée du Nunavut, Laurie Idlout, devait aborder la malnutrition sévère et le bien-être des enfants inuits. Mais cette demande de débat a été refusée par le président de la Chambre des communes, Francis Scarpaleggia. La déshumanisation comme autre outil colonial. La déshumanisation constitue un autre parallèle morbide entre le Canada et Israël, poursuit Suzanne Schuch. Au Canada, nous avons réussi à déshumaniser les peuples autochtones au point qu'ils étaient vraiment, et dans de nombreux cas, continuent d'être considérés comme des êtres presque non humains. C'est un outil puissant que les Israéliens utilisent également contre les Palestiniens en affirmant qu'ils sont la seule force démocratique civilisée dans une foule de sauvages, d'animaux, de non-humains, dit-elle. Elle rappelle qu'au Canada, en 2022, le Parlement a reconnu que les pensionnats autochtones constituaient un génocide. Malgré les parallèles remarquables avec le traitement de Gaza par Israël, notre gouvernement manque à son obligation d'empêcher que l'histoire ne se répète en Palestine, écrit-elle dans son article. C'était « Du Canada à Gaza, des médecins dénoncent la violence coloniale », un texte d'Inès Lombard, paru le 24 juin 2025 dans le Nunavoie.
Petite fille, grande ninja, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 19 juillet 2025 dans la presse. À 9 ans, Justine B. Simard possède une endurance, une agilité ainsi qu'une force physique et mentale impressionnante. Sur les parcours ninja québécois, canadiens et même américains, elle domine dans son groupe d'âge. À tel point qu'elle a été l'athlète la plus décorée lors des finales mondiales de la World Ninja League en Caroline du Nord au début du mois de juillet 2025. La photo prise par la maman de Justine B. après les finales mondiales à Greensboro est assez comique. Autour du cou de la petite ninja, les médailles sont tellement nombreuses qu'elle ressemble à un épais et lourd foulard. Ces médailles s'ajoutent à toutes celles que la petite fille possède déjà. « J'ai genre 40 médailles d'or », nous lancera-t-elle au cours de notre entretien sur la terrasse d'un café de Saint-Sauveur par une bouillante journée d'été. Justine B., J.B. de son surnom, ne pratique pourtant la discipline que depuis quelques années. Elle l'a découverte par pur hasard en allant visiter ses grands-parents à Granby. À côté, il y avait un centre de ninja. On est passé devant et on a dit « On va aller essayer ça », raconte-t-elle avec entrain. Il faut savoir que la jeune athlète, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ses parents et son grand-père paternel avaient déjà l'habitude, tous les dimanches, d'écouter l'émission télévisée Ninja Warrior. Ainsi, quand J.B. a mis les pieds dans le Motion Park évolutif de Granby, du haut de ses 5 ans, elle était comme un poisson dans l'eau, dixit sa maman Annie Saint-Pierre. Elle faisait des affaires que les jeunes de 9 ans ne faisaient pas encore. La Johannaise avait déjà pratiqué d'autres sports par le passé, gymnastique, cirque aérien, soccer et BMX. Elle avait d'ailleurs adoré le BMX, mais ses parents jugeaient le sport trop dangereux pour son avenir. Il y avait plein de jeunes qui n'avaient plus de dents, qui avaient des clavicules cassées. Il était hors de question qu'on lui offre un avenir pas de dents, se souvient son père, Dominique Simard. Elle est donc devenue une ninja, et une très douée qui plus est. Encore. Les parcours ninja sont créés à partir de toutes sortes d'obstacles conçus pour tester les capacités, tant physiques que mentales, des athlètes. À titre d'exemple, Jubé nous parle de la flying bar, qui consiste à amener une barre d'un crochet à un autre. Ça a l'air épouvantablement difficile, lance-t-on. C'est épouvantablement difficile, répond-elle du tac au tac. Il y a des obstacles qui sont durs, mais quand tu te pratiques, ça devient moins dur. Tu réussis. Quand tu réussis, tu peux passer à un autre obstacle. C'est sûr que s'il y a des gens qui se pratiquent moins, ils vont être moins bons. Au départ, Jubé suivait des cours à raison d'une fois par semaine, les vendredis soirs. Elle avait 6 ans. Elle ne voulait pas partir. On partait à la fermeture, relate M. Simard. À un moment donné, le propriétaire est venu nous voir et a dit « Vous devriez suivre des cours un peu plus avancés parce qu'elle a certaines habiletés. » Rapidement, les parents ont inscrit Jubé dans une première compétition au Québec qui s'est bien déroulée. De fil en aiguille, la famille est entrée dans un monde duquel elle ne compte plus sortir. C'est vraiment le fun, parce que c'était plein de jeunes de son âge. Tous des jeunes qui aiment bouger, de dire le paternel. Nous, on cherchait vraiment des activités pour qu'elle bouge. Comme Jubé performait bien au Québec, elle a rapidement été invitée dans la Ligue canadienne, la Canadian Ninja League. En 2024, elle a fini au premier rang québécois et canadien chez les filles de 6 à 8 ans. Cette année-là, Jubé a aussi été invitée à participer aux deux grandes ligues américaines, la World Ninja League, WNL, et la Ultimate Ninja Athlete Association, UNAA. Elle a tenté le coup pour voir. On a trippé solide à la World. C'est professionnel. Tous les pros qu'on voit à la télévision sont là, raconte M. Simard. En 2025, la famille a ainsi pris la décision de se concentrer sur les ligues québécoises canadiennes et la WNL. Jubé a pris part à 12 compétitions américaines au cours des derniers mois afin d'avoir le niveau là-bas. Elle a fini première dans chacune d'elles et s'est qualifiée pour les finales mondiales où elle a raflé 11 médailles et 2 trophées, dont celui du ninja le plus fort qui comptabilise les résultats de tous les parcours de la compétition. Quelle que soit la compétition à laquelle elle prend part, Jubé arrive à entrer dans sa bulle sans difficulté. C'est une de ses forces. « Je n'entends rien, » dit-elle. Stressée? Comment dire? Oui, je suis stressée, mais pas au point de boguer, laisse entendre la petite fille. Quand on lui demande ce que ça lui fait que de gagner toutes ses médailles, elle hésite. Rien, répond-elle. Je suis fière quand ce sont des courses importantes. Sinon, je suis comme encore.
Un message. De toute évidence, Annie Saint-Pierre et Dominique Simard sont fiers de leur fille. On les sent aussi et surtout heureux de la voir s'épanouir. Ils ont d'ailleurs installé dans la demeure familiale toutes sortes d'obstacles pour leur fille qui ne se lasse jamais. Dominique Simard, père de Justine B., raconte « Quand les amis viennent, ils sont tout le temps là-dedans au lieu d'être devant la télé. » Il se challenge. Tu vois que ça a vraiment un effet bénéfique chez les jeunes. Les parents souhaitent justement profiter de cette tribune pour lancer un message. Les petites filles peuvent bouger autant que les garçons. On trouve ça important d'avoir des modèles féminins, insiste le papa. Ce ne sont pas que les gars qui sont capables. Quand un garçon fait des activités à l'extérieur, le monde dit « T'es donc bien fort, capable. » Ma fille, les seuls adjectifs qu'on lui donne, c'est « t'es donc bien belle » ou « t'es donc bien bonne ». C'est hyper réducteur. Je suis plus capable. Grâce au parcours ninja, leur fille a amélioré ses résultats à l'école, a développé une concentration incroyable et une bonne gestion de risque. Tout ça, dans le plaisir absolu. C'était Petite fille, grande ninja, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 19 juillet 2025 dans la presse.
10 ans après leur entrée en vigueur, les directives de fin de vie sont peu utilisées. Voici pourquoi. Un texte d'Ariane Plaisance et Ranim Yacine paru le 7 juillet 2025 dans La Conversation. Les directives médicales anticipées, DMA, qui permettent à une personne de faire connaître ses volontés pour le jour où elle ne serait plus capable de s'exprimer ou de décider pour elle-même, restent encore peu utilisées, tant par les citoyens que par les professionnels de la santé. Pourtant, leur valeur juridique est bien établie. Cette faible utilisation peut s'expliquer par plusieurs lacunes déjà soulevées par des juristes que notre équipe a voulu explorer de plus près. Instaurée le 10 décembre 2015 lors de la mise en vigueur de la loi concernant les soins de fin de vie, LCSFV, les directives médicales anticipées permettent à une personne majeure et apte à consentir aux soins d'accepter ou de refuser en avance 5 soins médicaux, soit la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée par un respirateur, la dialyse, l'alimentation artificielle et l'hydratation artificielle. Ces directives s'appliquent dans 3 circonstances bien précises. En cas de maladie grave et incurable, en fin de vie, en situation de coma irréversible ou d'état végétatif permanent, en cas de démence avancée sans possibilité d'amélioration. Les DMA sont complétés par acte notarié ou devant témoin au moyen du formulaire prescrit par le ministre, puis déposés dans un registre administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Dans son rapport quinquennal 2018-2023 déposé le 18 février dernier, la Commission sur les soins de fin de vie soulève des questionnements quant au nombre limité de personnes ayant complété des DMA et sur l'effet presque inexistant du régime. Et si une partie de la réponse se trouvait dans les écrits juridiques? Nous sommes une équipe de recherche interdisciplinaire comprenant des étudiantes à la maîtrise en droit notarial et moi-même, chercheuse spécialisée sur les pratiques de fin de vie. Grâce à un financement de la Chambre des notaires du Québec, nous avons fait une analyse des écrits de spécialistes du droit ayant émis des réserves face au régime des DMA. L'aptitude à consentir, un fondement légal fragile. Selon Robert P. Coury, docteur en droit et professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, les dispositions de la loi par rapport à l'aptitude à consentir aux soins présentent une incohérence. Bien que cette aptitude soit présumée, certaines personnes peuvent ne pas être en mesure de l'exercer pleinement. Le notaire a une obligation de diligence pour vérifier la capacité du signataire, mais ne possède généralement pas l'expertise pour évaluer l'aptitude à consentir aux soins. Quant au DMA signé devant témoin, aucun mécanisme ne permet de vérifier l'aptitude malgré la mention préimprimée affirmant que la personne est majeure et apte. Comme le soulignait déjà Maître Daniel Chalifoux en 2015, le rôle des témoins se limite à valider la signature, sans exigence d'indépendance ou de vérification de l'aptitude. Si la DMA a été reçue devant notaire, et surtout lorsqu'elle a été reçue devant témoin, comment des professionnels de la santé pouvaient s'assurer, des années plus tard, qu'il s'agit bel et bien de l'expression émanant d'une personne légalement apte au moment de la complétion et que ses volontés sont toujours les mêmes, questionne Maître Coury. Le consentement éclairé, un idéal souvent irréaliste. La loi sur les fins de vie part du principe que la personne qui remplit des DMA a reçu toute l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée. Or, selon Maître Coury et Maître Chalifoux, cette présomption repose sur l'hypothèse d'une consultation avec un professionnel de la santé compétent. Dans les faits, il est peu réaliste de croire que des personnes en bonne santé prennent cette initiative dans un contexte hypothétique de fin de vie. Il est même irréaliste de croire que des personnes malades aient eu accès à un médecin en mesure de leur expliquer les risques et bénéfices d'accepter ou de refuser les 5 soins contenus dans les DMA. Une telle conversation prend du temps, plus longtemps que la durée d'un seul rendez-vous médical. Il devient donc difficile d'affirmer honnêtement que la décision est réellement éclairée, d'autant que la volonté exprimée peut évoluer, parfois considérablement, avec le temps. Quand les proches sont exclus des décisions. Dans un texte publié en 2019, Louise Bernier, professeure de droit de la santé à l'Université de Sherbrooke, et Catherine Régis, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, critiquent l'exclusion des proches dans le processus d'application des DMA. Une fois le formulaire entre les mains des professionnels de la santé, la loi n'accorde aucun rôle officiel à la famille pour compléter l'information ou interpréter les volontés exprimées. Pourtant, les proches sont souvent les mieux placés pour comprendre l'évolution des valeurs ou des préférences de la personne. Les professeurs Bernier et Régis dénoncent une conception réductrice et individualiste de l'autonomie qui fait fi de la dimension relationnelle essentielle dans les soins palliatifs et en fin de vie. Un régime à repenser. L'analyse des critiques juridiques permet de mieux comprendre la faible adhésion au DMA. Les enjeux entourant la présomption d'aptitude, la présomption de consentement éclairé et l'absence de rôle reconnu pour les proches minent la crédibilité et l'efficacité de ce mécanisme légal. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les professionnels de la santé puissent hésiter à se fier pleinement au DMA. De même, la population semble peu incline à recourir à cet instrument, soit par méconnaissance, soit par doute quant à sa capacité réelle de refléter leur volonté profonde dans des circonstances imprévisibles. Ces constats invitent à revoir en profondeur ce régime. Peut-être serait-il temps de miser davantage sur les objectifs de soins, un processus évolutif déjà en place depuis 1994 qui consiste à discuter avec la personne et ses proches pour établir les grandes orientations de traitement selon son état de santé, ses volontés et ses valeurs. Ce mécanisme, plus souple, évolutif et mieux adapté à l'accompagnement clinique, permet aussi l'implication des proches. C'était 10 ans après leur entrée en vigueur, les directives de fin de vie sont peu utilisées. Voici pourquoi. Un texte d'Ariane Plaisance et Ranim Yassine, paru le 7 juillet 2025 dans La Conversation.